François-Noël Buffet part de Nouvelle-Calédonie ce soir après 4 jours de visite. Le ministre aura multiplié les entretiens politiques et les rencontres sur le terrain. On fait le point en début de journal. Direction Paris pour Nicolas Metzdorf dès ce soir. Avant son départ, le député a dressé un bilan de la visite ministérielle et a annoncé participer à l'examen du projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale. La Calédonie continue d'être la proie des flammes. Un important incendie s'est déclaré hier à Moindou. Ça brûle également du côté de Koné et Koumak. Les pompiers sont encore sur place. À l'international, pas de trêve pour le moment à Gaza. Les frappes israéliennes continuent malgré l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, principal cerveau des attaques terroristes du 7 octobre. Du sport, en fin de journal, nous parlerons ballon rond, ballon ovale, sport automobile et tennis avant de voir en détail toute l'actualité sportive locale et elle est riche. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, dans la région Pacifique et dans le monde. À la une de l'actualité, la fin du déplacement du ministre des Outre-mer sur le territoire. François-Noël Buffet quitte le territoire ce soir après un séjour débuté mercredi dernier, lors duquel il a multiplié les entretiens. Michael Juneski.
Oui, durant ce déplacement de 4 jours, le ministre des Outre-mer a eu l'occasion de rencontrer, lors de discussions au commissariat ou de visites sur le terrain, les élus calédoniens, mais aussi des représentants de la société civile ou encore du monde associatif, entre autres. François-Noël Buffet a répété aujourd'hui les principaux enseignements qu'il tire à l'issue de son séjour au moment où la Calédonie traverse une crise grave.
Ça s'est très bien passé avec tout le monde et dans un climat de transparence, de vérité. Je crois que chacun a pu s'exprimer librement, de façon extrêmement courtoise, parfois même plutôt très sympathique. Et donc, c'était un point très important. Donc, je suis ravi de la façon dont les choses se sont passées. Maintenant, il faut continuer. On a parlé de l'urgence du moment, parce que je crois que l'urgence du moment, c'est à la fois la stabilité en termes de sécurité pour l'ensemble des Calédoniens. Le deuxième point, c'est réinjecter de l'argent dans la structure économique pour relancer l'emploi. On a fait des annonces d'engagement financier extrêmement fort de la part de l'État et sur 2024 et sur 2025, qui grosso modo accorde un peu plus d'1 milliard d'euros pour la Nouvelle-Calédonie, pour accompagner les collectivités locales. Et puis bien sûr, la deuxième étape, c'est comment on se remet autour de la table, comment on parle ensemble d'un projet pour la Nouvelle-Calédonie et comment évidemment dans la discussion intervient forcément l'évolution institutionnelle.
Pas encore d'annonce forte en ce qui concerne les discussions sur l'avenir institutionnel. Le ministre souhaite prendre le temps nécessaire, un choix délibéré de François-Noël Buffet, qui reconnaît avoir trouvé des gens de bonne volonté.
On communiquera quand les choses auront avancé sérieusement. Moi, je souhaite avancer avec tout le monde et je souhaite construire avec tout le monde. C'est le rôle de l'État. L'État aura un principe, des principes, défendra des points de vue, mais ça se fera librement, et j'allais dire librement et sans contrainte, de façon à ce qu'on construise quelque chose de solide, parce que l'Outre-mer en général en a besoin, mais la Nouvelle-Calédonie en a vraiment besoin aussi. Je redis, ça c'est ma conviction profonde depuis que je suis arrivé, en Nouvelle-Calédonie, nous sommes sur un point de bascule. Soit on est capable de serrer les rangs, de constituer un équipage solide et on construira quelque chose, soit on ne le fera pas et la Calédonie tombera très très bas. On n'a aucun intérêt à ce que les uns et les autres, quels qu'ils soient, se retrouvent dans des difficultés majeures. Donc voilà, le moment est grave. Je ne suis pas pessimiste, mais il faut qu'on se mette au travail. Et il y a des gens de bonne volonté de partout. Et cette bonne volonté, on va essayer de la faire fructifier pour avoir un beau projet pour la Nouvelle-Calédonie et pour ses habitants surtout, parce qu'au bout du compte, c'est moins les questions de personnes. Au bout du compte, ce qui compte, c'est que les Calédoniens et les Calédoniennes soient heureux là où ils vivent et qu'ils puissent y vivre normalement, sans difficulté. C'est ça l'enjeu. Alors, je ne suis pas naïf, ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que c'est possible.
Le ministre des Outre-mer avait consacré sa journée d'hier aux entretiens avec les groupes politiques. Vous avez pu entendre l'ensemble des réactions dans nos précédentes éditions. J'ajoute que François-Noël Buffet était également notre invité de la matinale sur RRB hier. Hier, il est revenu sur la crise insurrectionnelle, sur le soutien à l'économie et le retour du dialogue. Une interview à retrouver en podcast, audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc.
Et ce matin, François-Noël Buffet s'est rendu au Medipol pour une visite du centre hospitalier, échangé avec le personnel soignant. Accompagné d'élus et membres du gouvernement, le ministre a visité les services de néphrologie et de pneumologie, deux services représentatifs des difficultés que rencontrent les professionnels de santé. Parmi les problématiques les plus urgentes, le départ du personnel médical. Rien qu'au CHT, il manque 10% de médecins pour être à effectif complet. À la fin de l'année, avec les nouveaux départs, ce taux passera à 18%, soit 47 médecins. Autre difficulté, le manque d'attractivité. Et pour François-Noël Buffet, pour attirer, il faut rétablir la sécurité sur le territoire.
Il y a une urgence à ce que la Nouvelle-Calédonie retrouve de la sérénité, de la perspective, parce que ça a un effet direct sur la capacité à ce que des médecins, des infirmiers, du personnel soignant viennent s'installer ici et reprennent le service de soins, indépendamment des questions de fond, des pathologies qui ne sont pas qui sont importantes, qui doivent être traitées, mais que les médecins traitent très bien dans les stratégies qui sont les leurs. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et puis à côté, des gens qui sont ici mobilisés, qui soignent, qui accompagnent, qui font le travail, qui sont un peu en situation tendue, parce que c'est eux qui assurent la permanence des soins. Et donc, il faut faire attention aussi à cela, parce que l'épuisement physique des uns et des autres et l'épuisement moral des uns et des autres peut amener quand même à des difficultés encore plus importantes que celles qui sont vécues aujourd'hui. Donc,
depuis le 13 mai, on constate une baisse de la fréquentation des hôpitaux et une diminution des soins d'environ 20%. Cette problématique, couplée au manque de personnel, entraîne une fermeture des lits. À ce jour, 15%, soit 83 lits du Médipôle, sont fermés. Et tous les services médicaux sont touchés, explique le docteur Thierry De Grélan.
On avait déjà un problème d'attractivité, certes, avant le 13 mai. Depuis, il s'est considérablement aggravé, puisque aujourd'hui, on a environ 27 postes d'assistants qui sont libres et sans candidature enregistrée malgré nos publications. L'oncologie est une spécialité particulièrement sinistrée aujourd'hui au CHT. Elle tient toujours à la clinique. La gynécologie est une spécialité en grande difficulté aussi et menace l'activité du Nord qu'il faut absolument maintenir. Les urgences qui ont baissé le nombre de médecins, maintenant c'est plus un tiers, c'est un peu moins, mais c'est beaucoup, ça diminue l'offre de soins d'urgence sur le territoire. En cardiologie, on a un service en difficulté, en gastro-entérologie aussi. En ophtalmologie, on avait un beau service qui, là, est réduit comme peau de chagrin. Donc voilà les différents services, mais ça touche à peu près tous les services de l'hôpital.
Face à cette pénurie de médecins, l'État a mobilisé une réserve sanitaire pour renforcer les services de santé au CHT et au Centre hospitalier Nord. 11 professionnels de santé devaient être déployés, mais là aussi, des difficultés sont relevées, notamment concernant le nombre de volontaires et la durée de présence sur le territoire qui est insuffisante. Écoutez le haut-commissaire Louis Lefranc.
La réserve sanitaire, elle est qualitative et quantitative. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire en sorte que les médecins restent plus longtemps. Là, avec le tour que l'on vient de faire dans le Médipôle, il faut que ce qu'ils demandent, c'est que les médecins de la réserve sanitaire puissent rester au moins 2 mois. Il ne reste pas assez de temps. Il reste 3 semaines, c'est trop court. Donc, on fait en sorte que cette réserve sanitaire réponde au déficit dans différentes spécialités, l'oncologie, la pneumologie. Donc, on est sur ce thème-là et on fait en sorte qu'elle arrive et qu'elle corresponde surtout aux attentes à la fois de la clinique Hundomanien, mais aussi du Médipôle, qui sont en adéquation avec le besoin, parce qu'il manque beaucoup de médecins ici.
La réserve sanitaire devrait être déployée sur le territoire jusqu'à fin janvier. Politique toujours, le député Nicolas Metzdorf s'envole ce soir pour Paris. Avant son départ, il a tenu à dresser un bilan de la visite de François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, Michael.
Oui, Nicolas Metzdorf estime que les annonces sur le volet économique ont été en deçà des attentes et ne suffiront pas face à la crise que traverse le territoire depuis les violences institutionnelles. Le député de la première circonscription estime tout de même que cette visite aura été utile pour que le ministre des Outre-mer prenne conscience de la gravité de la situation. On écoute Nicolas Metzdorf.
J'ai trouvé que ça commençait mal, mais que ça a mieux terminé, parce que on a eu un ministre qui est arrivé en faisant des annonces qui n'étaient pas du tout rassurantes en termes de soutien économique. Je suis particulièrement marqué par l'annonce des 500 millions d'euros, donc 60 milliards de prêts garantis par l'État, alors qu'ils servent d'abord à rembourser les 50 milliards que l'État nous a prêtés. Donc en fait, il reste un peu moins de 10 milliards. Je trouve ça fort de café. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a pris un peu plus d'initiative parce qu'il me l'a avoué lui-même, qu'il n'avait pas imaginé l'ampleur du désastre en Nouvelle-Calédonie. Évidemment que c'est ce qui a expliqué le prolongement du chômage partiel, par exemple, jusqu'à décembre. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il va pouvoir nous aider, compte tenu de sa prise de conscience, à convaincre Bercy de nous donner un peu plus que ce qui a été annoncé.
Dès la semaine prochaine, Nicolas Metzdorf participera à l'examen du projet de loi de finances de l'État à l'Assemblée nationale et déposera des amendements en vue d'augmenter les aides à la Nouvelle-Calédonie. Il souhaite notamment la mise en place d'un plan pluriannuel en faveur du territoire. Nicolas Metzdorf estime que c'est désormais le Parlement qui doit se saisir de la question de l'aide au territoire.
Le Parlement reprend la main maintenant sur le gouvernement, puisque le Parlement va voter le budget de l'État. Et donc, c'est à moi de convaincre les collègues en déposant des amendements et en les faisant voter. Alors, je suis très satisfait parce que Déjà, concernant la partie fiscale de ce budget, on a obtenu des gains sur la défiscalisation. Un métropolitain aura plus intérêt à défiscaliser son argent en Nouvelle-Calédonie que dans n'importe quel autre territoire d'outre-mer. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, il va rester la partie dépenses du budget de l'État, où là, on doit augmenter les chiffres. J'espère pouvoir doubler ces prêts garantis par l'État, de passer ce chiffre à 1 milliard. L'État va devoir comprendre, et je suis sûr qu'il sera obligé de le faire, de transformer ces prêts en subventions, parce qu'on est en incapacité de rembourser les prix qui nous sont octroyés. On a besoin de subventions directes et on ne peut pas demander aux Calédoniens d'augmenter la fiscalité pour rembourser ces prix. Ils n'ont plus d'argent.
Enfin, sur l'avenir institutionnel, Nicolas Metzdorf estime que le temps presse et il regrette qu'il n'y ait pas de calendrier de discussion annoncé avant la venue du président du Sénat Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, le mois prochain.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est suspendu à la visite des différents rois mages. C'est-à-dire qu'on a la visite de François-Noël Buffet, on a la visite des présidents des deux assemblées, peut-être Michel Barnier, mais qu'en attendant, les négociations ne reprennent pas. Or, les groupes politiques ont annoncé qu'ils étaient prêts à reprendre les négociations tout de suite. Donc j'espère qu'on n'aura pas à avoir besoin de voir défiler toute la République avant de reprendre les négociations. Que ce soit à Nouméa ou à Paris, peu m'importe. L'idée, c'est qu'on se retrouve le plus vite autour de la table parce que la meilleure des mesures économiques, ça reste la stabilité institutionnelle et politique.
Le député Nicolas Metzdorf qui s'envole donc ce soir pour Paris. Il souhaite y porter d'autres sujets qui n'ont pas été suffisamment abordés lors de la visite du ministre des Outre-mer. Selon lui, il regrette qu'il n'y ait pas eu de séquence dédiée au nickel au cours de la visite de François-Noël Buffet. Il espère aussi que le gouvernement préparera des textes pour contraindre les assurances à indemniser les victimes des émeutes.
Dans le reste de l'actualité sur le territoire, sur le front des feux de brousse, un incendie sévissait sur le secteur de Moindou hier. Il a brûlé plus d'une centaine d'hectares de végétation. Il a également menacé des habitations avant d'être maîtrisé grâce à un important dispositif des pompiers et même des habitants de Moindou mobilisés. Les précisions du capitaine Maël Kerleger, le responsable de l'intervention pour le SIVM Sud.
Le feu était maîtrisé hier soir. Après, on a eu des rondes ce matin encore où on a fait des actions en lisière du sinistre. On a fait l'extinction et après, voilà. Au départ du sinistre, on a eu plusieurs dizaines d'habitations qui ont été menacées, ce qui a rendu l'action difficile au départ, en fait, pour se concentrer vraiment sur l'incendie en lui-même. On s'est concentré d'abord sur les protections, les défenses des habitations. Une fois que les moyens étaient venus en renfort, en force, on va dire, et que les maisons n'étaient plus directement menacées, on a pu traiter, avoir une action directe sur le feu. On avait quatre camions, citernes forestiers, on avait trois pick-up et un HBE, plus d'une vingtaine d'hommes. Et après, on a eu l'appui des agriculteurs et entrepreneurs du coin avec des moyens agricoles, des cuves agricoles, des cuves dans les bennes de pick-up, ce qui nous a permis de nous ravitailler, nous, au plus près du sinistre, mais que puisse traiter quelques points à l'arrière du feu.
Les pompiers étaient toujours mobilisés aujourd'hui pour surveiller la propagation des derniers points chauds sur le secteur de Moindou, même si l'incendie était maîtrisé depuis hier soir. De nombreux incendies aujourd'hui également en province nord. Du côté de Koné, un incendie a embrasé la brousse à proximité de l'hôpital en début d'après-midi. Les pompiers ont dû vite intervenir pour protéger l'établissement de santé, avec un risque d'autant plus élevé lié à la présence de cuves d'oxygène sur place. Heureusement, le feu est maintenant maîtrisé et aucune infrastructure n'a été touchée. À Koumak, en revanche, le feu est toujours en cours. Il a démarré aux alentours de 15h. Il s'agit d'une reprise de feu près de la ferme photovoltaïque. Un hélicoptère bombardier d'eau est actuellement mobilisé sur place. 17h58, on va marquer une première pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité nationale et internationale. Et on parlera notamment du voyage du roi Charles III en Australie. À tout de suite.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Et la suite du journal avec vous, Léana Colombo.
Et l'actualité dans le Pacifique. Le roi Charles III et son épouse sont arrivés hier soir en Australie. Il s'agit de la première étape de leur voyage de 6 jours dans la région. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le couple royal est arrivé à Sydney à bord d'un vol en provenance de Londres. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur général de l'Australie, Sam Mostyn, et le premier ministre, Anthony Albanese. Pour marquer l'occasion, les voiles de l'Opéra de Sydney avaient été illustrées de photos célébrant le roi et son épouse. Aujourd'hui âgé de 75 ans, le monarque va consacrer ce samedi à se remettre des fatigues de son voyage à la maison de l'amirauté, avant d'assister demain à un service religieux. Le programme officiel du couple ne débutera toutefois que lundi à Canberra, où Charles déposera une gerbe au mémorial militaire avant d'être accueilli au Parlement fédéral, où une réception sera organisée en son honneur. Le couple royal se rendra ensuite à Sydney, où il assistera à diverses cérémonies navales avant de prendre part à un barbecue communautaire. Le roi et son épouse quitteront l'Australie mercredi pour le Samoa, où se tiendra la 27e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et à l'étranger, pas de trêve pour le moment à Gaza. Une frappe israélienne a fait 33 morts à Jabalia, camp de réfugiés situé dans le nord de l'enclave palestinienne, annonce cette nuit de la défense civile de la bande de Gaza. Les frappes israéliennes qui continuent malgré l'élimination du chef du Hamas, Yahya Sinwar, principal cerveau des attaques terroristes du 7 octobre. Frédéric Simon est le correspondant en Israël pour Europe 1.
Oui, l'armée israélienne n'a manifestement pas changé de plan d'action dans la bande de Gaza depuis la confirmation de la mort de Yahya Sinwar, leader du Hamas et instigateur des massacres du 7 octobre. Depuis une semaine environ, l'armée concentre ses efforts sur la localité de Jabalia, dans le nord de l'enclave. Elle considère que le Hamas y a reconstitué une partie de ses infrastructures terroristes et qu'il les dissimule à proximité, notamment de centres hospitaliers. Pas de changement, donc, de la stratégie israélienne. Bien au contraire, les dirigeants de l'État hébreu estiment que le maintien de la pression militaire sur l'organisation islamiste, désormais décapitée, pourrait avoir un effet décuplé par l'élimination de Sinwar, dans l'espoir d'obtenir des redditions individuelles. Le premier ministre Netanyahou a d'ailleurs proposé une sorte d'indemnité à tout Palestinien qui libérerait des otages, ou plus probablement dans la perspective, encore hypothétique à ce stade, de la conclusion d'un accord sur la libération des otages, accord dont le prix serait perçu comme acceptable désormais par la coalition de droite au pouvoir.
En Ukraine à présent, et le déplacement du ministre des Affaires étrangères à Kiev, Jean-Noël Barrot est dans la capitale ukrainienne ce week-end pour réitérer le soutien de la France à l'Ukraine. Un déplacement qui intervient alors que la Corée du Nord serait en train de fournir des soldats à la Russie. Et aux États-Unis, la campagne américaine se poursuit, les candidats enchaînent les meetings. Donald Trump et Kamala Harris sont dans le Michigan, un état clé où se trouve la plus grande communauté arabo-musulmane des États-Unis et où les débats sur le soutien à Israël s'intensifient. Allez, allons en métropole et l'affaire de ce cycliste de 27 ans tué, écrasé à Paris. Un cycliste renversé par une voiture SUV dans le 8e arrondissement de la capitale. L'automobiliste a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Mais a-t-il délibérément roulé sur le cycliste ? Son avocat dit que non. Guillaume Dominguez revient sur le déroulé des faits pour Europe 1.
Eh bien, si l'on reprend les faits, il est un peu avant 18h lorsque ce cycliste de 27 ans descend le boulevard Malesherbes à vélo. Derrière lui, un SUV remonte la piste cyclable sur environ 200 mètres. Les témoignages et la vidéosurveillance révèlent que c'est à ce moment-là que le conducteur aurait roulé sur le pied du jeune homme qui se trouvait à sa gauche. La victime donne alors un coup sur le capot pour alerter l'automobiliste qui recule pour dégager son pied. En colère, le cycliste lâche alors son vélo et vient se positionner à l'avant-gauche de la voiture. Toujours selon le parquet, c'est à ce moment-là que le conducteur tourne ses roues dans sa direction et reprend une marche avant. Le jeune homme va disparaître sous les roues de la voiture. Il meurt sur le coup. Alors dans cette affaire, la défense plaide l'erreur de manœuvre, la perte de contrôle du véhicule. Mon client n'aurait jamais roulé volontairement sur quelqu'un. Il est immédiatement sorti pour secourir le cycliste et tenter de le réanimer, insiste l'avocat du conducteur. A noter que les dépistages d'alcool et de stupéfiants de l'automobiliste se sont révélés négatifs.
Dans le reste de l'actualité nationale, nouvelles actions coup de poing des agriculteurs cette nuit pour nous. Ils réclament une simplification des normes. Du purin a été déversé devant les portes de la préfecture de la Marne, à Châlons en Champagne. Action également en Occitanie, où une soixantaine d'agriculteurs ont vidé leur benne devant le centre des impôts. Le mouvement pourrait se durcir d'ici la fin de l'année. 18h05, seconde et dernière pause dans ce journal, et nous retrouverons toute l'actualité locale et les nombreuses festivités à retrouver ce week-end.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal avec vous, Liana Colombo.
Allez, passons maintenant à toute l'actualité festive sur le territoire. Les Calédoniens ont pu profiter d'une journée riche en activités à la Maison de la Biodiversité de Sainte-Marie. À l'occasion de la Fête de la Science, de nombreuses animations étaient organisées autour de la thématique des coraux. Charlotte Coulson.
Un programme bien rempli aujourd'hui, avec ce matin une intervention du Centre d'initiation à l'environnement. Il présentait au public le parc naturel de la mer de Corail. Et puis de nombreuses activités divertissantes, telles que la découverte en réalité virtuelle des écosystèmes coralliens ou encore la fabrication de poissons en fibres de cocotier. Et puis bien sûr, l'événement phare aujourd'hui, c'était l'exposition de photographies de coraux fluorescents. De quoi ravir les familles venues nombreuses, plus de 200 personnes se sont rendues à la Maison de la Biodiversité. Titouan Pouillot, l'ambassadeur de cette 33e édition de la Fête de la Science, a lui aussi participé aux activités. Il a notamment essayé le casque de réalité virtuelle. On écoute ces quelques témoignages.
En fait, là, tu vois une pastille. Normalement, il y a des pastilles oranges qui sont autour de toi. En fait, tu dois fixer les pastilles. Et ensuite, normalement, au bout de 2-3 secondes, ça ouvre les pastilles. Ah ben voilà, il a déjà trouvé une pastille.
Ben, on est bien dans sa bulle. On est en pleine plongée à l'île aux canards. De ce que j'ai fait, en tout cas, parce que c'est assez vaste, je vais y retourner après. Je viens d'arriver, et puis j'ai pris mon petit pull. Je vais rester jusqu'au film en début de soirée. Ouais.
Oui, ça m'intéresse. On va rester jusqu'à ce soir. Ah ben, c'est fluorescent, c'est magique.
C'est des coraux qui brillent dans le noir.
Regardez les photos, là, et c'est tellement magnifique qu'on a envie de revenir tout à l'heure pour voir le film. Parce que c'est que des choses magiques ici à la Maison de la Biodiversité. C'est vraiment formidable.
Et vous l'avez entendu, beaucoup de personnes ont fait le déplacement pour voir l'exposition photo, mais aussi la projection du film « Des étoiles sous la mer ». Elle débutait ce soir à 17h30. Gilles Chabot est à l'origine de ces deux projets artistiques.
Alors, c'est une exposition qui est basée sur la fluorescence du corail, suite au documentaire qu'on a réalisé avec l'équipe de Néomédia et de iFly Pacific, et qui a été écrit donc par Guillaume Terrien. Et du coup, ça explique en fait le phénomène de fluorescence sur le corail. Et donc, en même temps que j'ai fait de l'image vidéo pour réaliser ce documentaire, j'en ai profité pour faire de la photo, pour voir, pour proposer une exposition comme aujourd'hui à la Maison de la Biodiversité. Et j'ai eu énormément de passages ce matin, beaucoup de beaux retours, de bons retours. Ça fait vraiment plaisir. Donc des gens qui n'avaient jamais observé la fluorescence qui la découvrent, et des gens qui l'avaient déjà observée et qui découvrent des couleurs qu'ils n'avaient pas encore vues ou des types de coraux sur lesquels ils n'avaient pas observé de fluorescence.
Et la prochaine journée festive à la Maison de la Biodiversité se déroulera samedi prochain autour de la thématique des mangroves cette fois. En attendant, la Fête de la Science se poursuit. Rendez-vous demain à Lansvata pour échanger avec des chercheurs et parler biodiversité océanique. Une conférence se tiendra également à l'UNC pour parler cette fois de requins.
Et Charlotte...
C'est beau, non ?
Pardon, excusez-moi, Charlotte, une bonne idée sortie ce week-end avec le salon Nature, Maison et Déco. Plus d'une centaine de commerçants sont réunis au parc Brunelet à Nouméa.
Et sur place, de l'outillage de jardinage, des plantes bien sûr, des produits artisanaux, mais également de quoi se restaurer avec des animations musicales. En bref, un événement qui permet aux uns de relancer leur business et offre aux autres un bon moment à passer en famille ou entre amis. On écoute ces quelques témoignages de visiteurs.
C'est beau, donc on a vu qu'il y avait une petite fête organisée, donc ça permet de voir un petit peu les artisans et de pouvoir un peu soutenir l'économie aussi en ce moment.
En famille, on est venu voir les orchidées et plein d'autres choses, parce qu'il y a des plantes assez merveilleuses et surtout des modèles assez rares. On n'habite pas dans le quartier, mais on n'hésite pas à faire des kilomètres pour venir au salon. C'est festif, c'est agréable. Oui, oui, on en profite, en plus il fait super beau et on retrouve vraiment de tout, donc c'est sympa.
Il y a plein de choses, plein de choix, les gens sont souriants, détendus, un beau soleil, faut venir, hein. Je fais la pub. Hein.
Le salon Nature Maison Déco, ça se passe au parc Brunelé à Nouméa. Et pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, sachez que l'événement est encore ouvert au public demain de 8h à 17h.
Et les festivités se poursuivent tout le week-end. Demain, les amateurs de glisse pourront se retrouver à Païta, au skatepark près de l'arène, pour une journée dédiée à la fameuse planche à roulettes. Des initiations gratuites seront proposées de 9h à midi par le club Tropical Shredder. Enfin, demain matin se déroulera le marché et vide-grenier du parc Fayard et ce sera à Dumbéa.
RRB 18h10.
Un projet au profit de l'environnement et du sport, récompensé par le soutien de la province sud. C'était Michael Juneski. Aujourd'hui, l'inauguration de la carrière équestre innovante du Yala Ranch de Dumbéa.
Ouais, cet aménagement du terrain en fibre géotextile, c'est-à-dire une matière issue exclusivement du recyclage, apporte donc à la fois de la souplesse, de la stabilité pour l'impact lorsque le cheval et son cavalier pratiquent l'équitation, mais aussi une meilleure tenue de l'humidité dans le sol. Et là, c'est pour faire des économies d'arrosage et également protéger l'environnement. Écoutez les précisions de Christelle Giovanelli. Elle est la présidente de l'Association des cavaliers de Dumbéa.
Le projet initié était de faire une carrière innovante, donc innovante dans la qualité du sol, hein, des fibres recyclées, donc pour le bien-être des chevaux et forcément des cavaliers à la suite. Ça permet également écologiquement d'utiliser moins d'eau. Au niveau écologique, c'est quand même quelque chose d'innovant. Tout ça pour le bien-être des chevaux, pour notre écosystème. On a fait la demande de projet en 2023. C'était quelque chose de conséquent et on a été suivi par la province sud au niveau du budget participatif. Le temps de mettre tout ça en place, de faire venir les entreprises locales pour la carrière, remettre du sable, pour terrasser, avoir la livraison de la fibre. Et là, ça y est, tout est mis en place. On en profite. C'est un jour de compétition pour inaugurer tout ça.
Ce projet porté par l'Association des Cavaliers de Dumbéa était l'un des lauréats du budget participatif de la province sud, des subventions qui avaient été attribuées avant les événements du mois de mai. Il s'agit d'un projet soutenu à hauteur de 3 200 000 francs par la province sud.
Avant de voir tout le sport, nous vous l'annoncions à midi. Dès aujourd'hui, un nouveau jeu chance commence. Jusqu'au 15 novembre, gagnez un séjour de rêve à l'hôtel Cougnier Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet pour deux personnes. Profitez de la mer et de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 15 novembre à 14h. 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Allez, on passe tout de suite au sport. À la une de l'actualité sportive, la Formule 1 avec le Grand Prix des Amériques.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Michael Juneski, c'est le néerlandais Max Verstappen qui s'élancera en tête lors de la course sprint demain.
Meilleur chrono pour le pilote Red Bull au Texas lors des qualifications à la sprint race. Il a devancé la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc. Lando Norris sur McLaren ne s'est classé que quatrième. Lui qui peut contester le règne de Verstappen cette saison. Côté français, Pierre Gasly partira de la 13e place et Esteban Ocon de la 18e position. À 6 courses de la fin du championnat du monde, on retrouvera également le néo-zélandais Liam Lawson. De retour en Formule 1 après une intérim en 2023, il revient au pied levé après l'éviction de l'Australien Daniel Ricciardo de Racing Bulls. Un remplacement qui ne s'est pas fait en douceur selon Günther Steiner, manager de l'écurie Haas et précédemment directeur technique de Jaguar Racing et Red Bull Racing.
C'est un petit peu bizarre la manière dont ils ont procédé. Il n'y a pas eu un atterrissage en douceur pour lui. Mais les décisions, encore une fois, doivent être prises. Et avec Liam Lawson, il fallait le mettre dans la voiture pour voir ce qu'il est capable de faire sur ses 6 dernières courses. Et peut-être une possibilité aussi que Lawson s'en aille ailleurs s'il ne le mettait pas dans la voiture. Il a fait un très bon travail l'an dernier.
Et
Daniel, il faut partir, c'est ce qu'ils ont sans de lui dire, mais ils ne l'ont pas fait de manière élégante.
Les qualifications ainsi que la sprint race seront à suivre ce dimanche. Le Grand Prix des Amériques est programmé lundi matin, départ à 6h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Mais il n'y a pas que la Formule 1, Michael. De manière générale, c'est un beau week-end pour les sports mécaniques.
En MotoGP, le Grand Prix d'Australie avec l'Espagnol Jorge Martin qui a dominé la sprint race cet après-midi devant Marc Marquez et Enea Bastianini. Côté français, Fabio Quartararo s'est classé 11e. Johan Zarco a chuté. Il a dû abandonner sur les terres de sa première victoire dans la catégorie Rennes. La course sera à suivre demain à 14h, heure de Nouméa. Et puis, au Rallye d'Europe centrale, nouvelle manche du championnat du monde, le Belge Thierry Neuville est en tête à l'issue des 8 premières spéciales devant le français Sébastien Ogier. Thierry Neuville qui pourrait être sacré ce week-end pour la première fois de sa carrière en WRC.
Et du football avec la suite de la 8e journée de Ligue 1.
Après le match nul de Monaco contre Lille, le PSG a l'occasion de reprendre la tête du championnat de France. Demain, les Parisiens ne comptent que 3 points de retard sur les Monégasques avant de recevoir Strasbourg. Une rencontre à suivre dès 6h demain. Auparavant, il y aura un derby breton entre Brest et Rennes à partir de 2h du matin et à 4h, Saint-Etienne affrontera Lens.
Il y aura du rugby également avec la 7e journée de top 14.
Dès 23h30, Bayonne recevra le Racing 92. À 1h30 du matin, en simultané, Clermont fera face au promu Vannes. Castres affrontera le Stade français. Toulon sera opposé au Montpellier. Et Perpignan accueillera Lyon. Et puis à 6h, le Stade toulousain sera lundi matin. L'Union Bordeaux-Bègles ira défier le Stade Rochelet.
Et en tennis, Hugo Gaston jouera la demi-finale du tournoi d'Anvers.
Il a déjà créé la surprise en éliminant l'Australien Lex De Minaur, tête de série numéro 1. En quart de finale, il fera face à l'Espagnol Bautista Agut dans le dernier carré. Mais puis chez les féminines, la tricolore Diane Paris dispute en ce moment même les demi-finales du tournoi d'Osaka au Japon contre la néerlandaise Suzanne Lemens.
En Calédonie, il y avait du touch rugby aujourd'hui, Michael.
Le tournoi Open qui était organisé ce matin par le club de l'Olympique au stade de Sainte-Marie. Rendez-vous qui a rencontré un beau succès pour promouvoir l'Ovalie à travers la pratique du rugby sans plaquage afin d'attirer un large public. Farid Safi, l'un des organisateurs de ce rendez-vous.
L'année dernière, nous avons voyagé aux Philippines pour faire un tournoi international que nous avons remporté. Depuis, un élan s'est emporté et qui a fait que on organise nous-mêmes un tournoi similaire afin de promouvoir notre sport. On a prévu 3 éditions cette année, 3 éditions. Je tiens à préciser que nous sommes le plus grand club de touch de France. C'est vraiment la base du rugby, quelque part. C'est déjà prendre du plaisir avec la balle, savoir courir, faire une passe en arrière, enfin... Autant de facteurs qui collent au jeu. Bien sûr, l'ambiance est bonne, les bons enfants. On a à peu près, 150 sur le terrain. Il y a l'armée qui est engagée. Donc, très bon esprit.
10 équipes étaient réunies donc sur ce terrain de l'Olympique. Ça se passait jusqu'à 13h.
Et pour terminer, un coup d'œil au reste de l'actualité sportive.
Le trail de Nessadiou à Bouraille, plus de 360 engagés. Et sur le parcours phare de 12 km, c'est Jérémy Marie qui est arrivé en première position. 53 minutes et 15 secondes d'effort. Il a devancé Antoine Barguien, deuxième en 55 minutes 33 secondes. Abdelkader Djebali complète le podium. Ludovic Lanceleur est arrivé à la quatrième position. Claire Jacquin, la meilleure féminine, a terminé sixième au classement scratch. En tennis, la finale du tournoi Senior Plus du Receiving se joue en ce moment même. Et puis, sur le même site, en padel, le tournoi de l'association Hope, dans le cadre d'Octobre Rose, se dispute également aujourd'hui sur les structures qu'avait mises en place Catherine Bonnet, l'ancienne présidente de l'association. 28 équipes en lice pour soutenir la bonne cause, évidemment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Merci beaucoup, Mickaël. 18h18, on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Allez, on va toute la météo avec vous, Maxime.
Oui, exactement. Alors, pour votre bulletin, pas de vigilance particulière. Tout d'abord, pour cette nuit, les nuages persisteront en soirée sur l'est, s'attarderont ensuite sur le nord-est en donnant quelques averses. Des nuages remonteront sur le sud des Loyautés, l'île des Pins et la pointe sud. De brèves ondées seront possibles. Le vent de sud-est faiblira généralement entre 5 et 10 nœuds, voire autour des 5 nœuds sur l'ouest. Sur le sud-est, en soirée, il sera temporairement compris entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales évolueront pompeux ce soir, entre 17 et 20 degrés, et localement entre 15 à 17 degrés dans l'intérieur, et proche des 21 degrés sur la pointe nord. Demain matin, sur la pointe sud, Lifou et Marais, des averses faibles circuleront sous un ciel passagèrement nuageux. Sur le nord-est, les nuages persisteront avec encore quelques averses. Sur le reste du territoire, c'est le soleil qui l'emportera. Sur l'ouest, le vent sera variable faible, puis les brises de secteur sud proche des 10 nœuds s'établiront. Au Loyauté, le vent de sud-est sera de 10 nœuds et ailleurs, il soufflera d'est-sud-est avec seulement 5 à 10 nœuds.